Alors, 1 Thessaloniciens 4 et le verset 13. Donc, nous avons vu beaucoup de choses dans cette épître déjà. La dernière fois, nous avons parlé de cet appel à la sainteté qui consiste d'une part à rester dans l'abstinence sexuelle en dehors du mariage et dans l'amour de son prochain. Donc, c'était les deux choses qui étaient mentionnées comme étant la volonté de Dieu pour nous. Hein, c'est le verset 3 de ce chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et d'un seul coup, il y a un changement de sujet où Paul dit au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. » Je vais lire jusqu'au chapitre 5. Et le verset 11, hein, parle de la résurrection des croyants et du retour du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps, les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sécurité ». Alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Donc voilà, tout un texte. Je n'ai pas voulu le raccourcir. On va voir tout cela ce matin. Parfois, on fait que deux, trois versets. Mais là, c'est un ensemble. Il y a trois parties de ce texte. Donc, on va le voir en trois fois. D'abord, du verset 13 au verset 18, auquel j'ai donné le titre, « Ne soyez pas dans la tristesse pour ceux qui sont morts. » En fait, il y a deux raisons pour cette tristesse, bizarrement. La première raison, on le voit à la fin de ce verset, parce que Paul parle de la tristesse, « Ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Ça veut dire ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, parfois, nous, dans notre vocabulaire de nos jours, on dit non-chrétien pour dire celui qui n'est pas chrétien. Dans le Nouveau Testament, il y a deux expressions. Ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu et les autres. Les autres. C'est ça le mot qu'on utilise pour les non-chrétiens. Les non-chrétiens n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. La mort, c'est la mort et c'est tout. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et ce n'est pas la première fois que je le dis, à quel point la mort est à la fois un tabou, on ne veut pas trop en parler, Mais en même temps, on en parle tout le temps. Si vous regardez les titres des informations, on va parler des morts dans des inondations. On va parler du fait qu'un train a fauché des personnes sur une voie de chemin de fer en Inde cette semaine. Tout le temps, ces faits divers parlent de morts. Les accidents de la route, des choses comme ça. Parce que les gens sont conscients de cela. Et notre vie est courte. C'est le message du psaume 90 qu'on va voir ce soir. Ça passe vite. Et après, quoi? C'est le néant? Si c'est le cas, c'est la tristesse. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, 1 Corinthiens 15. Donc c'est une première raison pour laquelle il y a tristesse. Une deuxième raison nous semble un peu étrange pour nous, parce que ce n'est plus un sujet qui nous préoccupe autant. Mais il semble, d'après ce texte, que certains chrétiens à Thessalonique étaient plutôt attristés parce que certains étaient déjà morts entre eux. Et ils pensaient que le Seigneur Jésus allait revenir avant. Et donc ils disent, mais ceux qui sont morts, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne seront pas là au moment où Jésus reviendra. Et pour eux, c'est une sorte de tristesse. Et c'est pour cela que Paul commence ce texte en disant, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, déjà. » Les chrétiens qui sont déjà morts. Pourquoi? Verset 14, « Ce qui nous donne la certitude, c'est la résurrection de Jésus. » En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont déjà morts parmi les Thessaloniciens. Donc les chrétiens décédés, versets 15 à 17, seront avec Jésus lors de son retour. C'est la réponse à leurs inquiétudes. Il dit, nous les vivants, verset 15, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Parce que quand Jésus reviendra, verset 16, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons donc tous avec le Seigneur. Donc c'était important pour eux qu'ils comprennent que, et pour nous aussi, qu'à la fin de notre vie, de deux choses l'une. Soit on sera vivant au moment du retour du Seigneur, soit nous serons morts. Mais dans les deux cas, on sera ensemble, pris dans les airs avec lui, donc dans les airs pour partir avec le Seigneur. Et donc il n'y aura pas de privilégiés, ni ceux qui sont déjà morts, ni ceux qui sont vivants au moment du retour du Seigneur. Bon, pour nous, ce n'est pas une question qui nous préoccupe autant, parce que nous avons 2000 ans d'histoire derrière nous, donc beaucoup, beaucoup de chrétiens sont décédés, mais cette première génération se posait cette question, parce qu'ils pensaient que Jésus va revenir à tout moment. Et à l'étude mercredi soir, justement, on est dans les textes qui parlent, ça tombe bien, sur le retour du Seigneur. Et on a vu dans Matthieu que tous les signes de son retour étaient déjà là au premier siècle. Donc on ne peut pas dire en quelque sorte, il reste encore des choses à faire, Jésus ne peut pas revenir parce que les signes ne sont pas accomplis. C'est pour que chaque génération dise le Seigneur peut revenir d'un mort vivant. Donc voilà la première chose. Et le verset qui termine cette section, encouragez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Parce qu'on a besoin d'encouragement. On a besoin d'entendre des choses positives. On parle des fois de ceux qui entendent ministère de découragement, donc ça existe. Mais nous, on doit avoir un ministère d'encouragement, nous encourager les uns les autres en pensant que, voilà, nous qui sommes là, si on est vivant au moment du retour du Seigneur, les gens que l'on connaît qui sont déjà morts seront avec nous. S'ils étaient chrétiens, au moment du retour de Jésus, on sera réunis à tout jamais avec le Seigneur. Donc ça, c'est la première partie de ce texte. La deuxième partie parle du jour du Seigneur. C'est une expression d'ailleurs tirée de l'Ancien Testament pour dire que Dieu, c'est le jour où Dieu va intervenir dans l'histoire pour bénir et pour juger. Donc c'est un moment, on va dire, à double sens, parce que pour certains, ce sera vraiment le moment de jugement. Alors que pour ceux qui ne craignent pas le jugement de Dieu parce que nous sommes sauvés par la grâce, ce serait plutôt un moment de joie. Mais en même temps, ce serait quand même un moment très solennel. Regardons deux textes de l'Ancien Testament qui parlent de ce jour. Donc Amos 5, pardon, verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, ouf, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. On n'y échappe pas. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? » Pourquoi Amos dit ça? Parce que c'est à la fois un jour de bénédiction et un jour de jugement. Mais si on n'est pas en règle avec Dieu à ce moment-là, on ne va pas dire c'est un jour de bénédiction. Les Juifs pensaient, du moment d'Amos, Dieu va intervenir, voilà, il va nous délivrer de nos ennemis et tout, sur une bénédiction pour nous. Et Amos dit, non, si vous n'êtes pas repenti, ce ne sera pas ça. Et dans Zacharie 13, que c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Il y a un chapitre où ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, cela revient continuellement. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants du Jérusalem pour laver péché et souillure. Donc, ce jour-là, quand le Seigneur interviendra, ce sera vraiment un moment extraordinaire. Et c'est pour cela que certains pensent que quand on pense au dernier temps, donc ce jour-là, en réalité, ce jour dure plus longtemps que 24 heures, parce que c'est depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour, ce jour, qui est à la fois bénédiction et non, parce que là, on parle de ce pardon qui est là à cause de la croix. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier non plus. Je pense qu'autour de nous, quand on veut apporter la bonne nouvelle, pour beaucoup ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'ils n'ont pas encore conscience de leur péché. En quoi c'est une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est quand on sait qu'on a besoin du pardon de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus le compare à la médecine. Donc on va prendre un médicament quand on se reconnaît malade. C'est la condition. Et donc la condition du pécheur, il faut le reconnaître. Mais c'est un moment qui peut être terrifiant. Donc, avec Marie, on a eu l'occasion vendredi soir d'aller à un concert avec le Requiem de Mozart. Et donc une des parties, c'est dies irae, dies illa, donc Dieu, jour de colère, ce jour-là. Et tout le monde était là, et moi j'ai regardé, on était dans une loge, on regardait en bas, tous ces gens-là, et je me disais, mais combien se rend compte que ce n'est pas simplement de la musique, hein? C'est une réalité. Ce jour-là viendra. Bon, c'est une musique qui me touche toujours. Mais on ne connaît pas l'heure. Jésus le dit dans Matthieu 24, il n'y a que le Père qui connaît l'heure. Et donc il ne faudrait pas tomber dans le piège de certains qui vont annoncer cette heure-là. On va revenir à ça tout à l'heure. Au contraire, ça va venir où les gens s'y attendent le moins, quand les hommes diront paix et sécurité. Voilà, c'est ce qu'on veut. Les hommes politiques le proposent, sinon le promettent. Paix et sécurité, il n'y aura jamais tant que nous sommes dans ce monde. Et il y a deux illustrations de cela pour montrer que cela arrivera à l'improviste et de façon inévitable. D'abord, cela viendra comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand le voleur va venir. Je me souviens quand on était cambriolé, quand on habitait au Blanc-Ménil. Si on avait su à quel moment le cambrioleur venait, bon, ce serait préparé. Et puis, deuxième chose, pour dire que c'est inévitable, les douleurs de la femme enceinte, à partir du moment que l'on sait que la femme sait qu'elle est enceinte, inévitablement, au bout de 9 mois, ces douleurs vont venir. C'est inévitable. Donc c'est sans crier gare comme un voleur, et inévitable comme la femme enceinte. Donc ça, c'est le jour du Seigneur. Mais, on va passer à la troisième partie de ce texte, chapitre 5, verset 4, verset 14, pour dire que pour nous, on ne doit pas le voir comme étant aussi terrible que cela, à partir du moment où on marche comme on doit le faire devant le Seigneur. Le verset 4 dit bien, « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Et comme on a dit une fois ici, c'est une expression qui m'est venue sur les lèvres une fois. On a dit qu'une église, en fait, c'est une boîte de jour. Les boîtes de nuit, c'est une chose, mais nous, c'est une boîte du jour parce que nous sommes de la lumière. Et ce qui est intéressant, avant d'aller plus loin, et je le signale au passage, on va revenir à ça tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui parle de la fin du monde et du retour du Seigneur, sans que dans le même texte, on parle de notre vie maintenant et les implications pour notre vie maintenant. Hein? Et c'est ce que l'on va voir maintenant dans ce texte. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Verset 5. Ne dormons donc pas. On dort la nuit, pas le jour. Et puisque on ne s'enivre pas non plus, on reste sobre, on reste lucide. Et parce que, verset 8, il faut rester sobre, La conclusion au verset 8, c'est qu'il faut aussi porter l'armure qui nous protège. Bon, Paul parle en long et en large et dans Éphésiens 6, mais là il parle de deux choses, la cuirasse de la foi et la casque de l'espérance du salut. Donc pour être protégé, la cuirasse de la foi, on fait confiance à Dieu, et donc ça veut dire que l'ennemi, Satan, ne peut pas avoir la victoire sur nous parce qu'on a la cuirasse de la foi en Dieu. Et la foi et l'amour. Donc, Paul revient tout le temps dans les Thessaloniciens. N'oubliez pas l'amour, n'oubliez pas l'amour, n'oubliez pas l'amour. Et puis la deuxième chose, le casque de l'espérance du salut. En portant ce casque, nous rappelons que nous sommes sauvés. Et puisque nous sommes sauvés, là je passe à la suite, les versets 9 et 10, ça veut dire que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par Jésus-Christ. Donc le salut ne vient que par Jésus, c'est pour ça qu'on a pris la scène tout à l'heure en souvenir. Il est mort pour nous, afin que, et là c'est la suite, pour vivre en relation avec Jésus, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, parce que de toute façon il faut dormir, mais là c'est dans l'autre sens. Hein. Le vrai sommeil de la nuit, ce n'est pas le sommeil spirituel. Donc ça veut dire 24 heures sur 24 que nous vivions ensemble avec lui. De vivre avec le Seigneur, ensemble avec lui, une relation avec lui. Et de nouveau, verset 11, comme on l'a vu déjà à la fin du chapitre 4, nous devons nous encourager les uns les autres par ces paroles et nous édifier mutuellement. Donc, édifier, c'est le mot édifice, c'est une construction. Donc, ça veut dire on aide les gens à construire leur vie. Bon, le mot édification, c'est un mot un peu biblique, qu'on peut comprendre ou non, mais en réalité, c'est le mot construction aujourd'hui. Un édifice, c'est une construction. Et comme vous le savez, on était bien placé là où on habite pour voir toute la construction des Batignolles, tout ça qui sort de terre, on a vu. Mais il a fallu des années. C'est pas. Et tout d'un coup, le TJ est là. Il a fallu des années. Donc, dans notre vie aussi, on construit notre vie jour après jour dans le temps. Et chaque chose que l'on peut mettre dans cette construction est important. Et on nous demande, donc la traduction du sommaire, c'est « aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi ». Ici, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc, encourageons-nous les uns les autres. Alors, pour terminer cela, je voulais en fait en quatre affirmations résumer ce que l'on peut dire donc sur le retour du Seigneur et sur la fin du monde. En quatre affirmations. Le premier, c'est que c'est Dieu qui décide du moment de la fin du monde. On nous parle de problèmes écologiques. Et quand on voit ce qui se passe, on peut se demander si le monde, combien de temps le monde peut continuer. Et même si on pense qu'on va trouver des solutions techniques, c'est pas si évident que cela. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Je me souviens, dans ma jeunesse, c'était un autre souci. On était un peu convaincus avec les deux blocs qu'il y aurait une guerre nucléaire. Tout le monde en parlait tout le temps. On pensait que voilà, tout allait sauter d'un jour à l'autre. On vivait avec ça. Maintenant, on en parle moins. On va plutôt parler de micro-particules sur le périph. Mais quoi qu'il en soit, les gens savent. Mais c'est quand même Dieu qui décide. C'est lui qui décide. Pourquoi ? Bon, on sait déjà dans 2 Pierre qu'il attend que le maximum de personnes puissent être sauvées. Mais c'est lui qui décide. Et notre espérance, c'est le retour de Jésus. Alors, deux choses par rapport à cela. D'abord, ce n'est pas simplement un événement catastrophique, c'est le retour de quelqu'un que l'on connaît et qui nous connaît. Donc, il faut le mettre cela dans l'équation quelque part. Parce qu'il y a d'autres textes qui parlent des éléments embrasés qui vont se dissoudre, enfin tout ça. Mais, en fait, nous, on va dire, on va voir Jésus. C'est ça. La deuxième chose, et ça nous aide aussi à vivre notre vie, c'est que ça veut dire que l'histoire a un aboutissement. Et on le sait très bien, les analyses ont été faites à ce sujet, il n'y a que 3 façons de comprendre l'histoire. Soit l'histoire est cyclique, et certaines civilisations ont pensé cela, certaines pensées asiatiques par exemple, voilà, il y aurait des cycles, des empires qui montent et qui descendent, enfin. Soit il n'y a pas, on va nulle part, on ne sait pas, personne ne sait où on va, personne ne peut décider, c'est le hasard qui va faire cela. Et comme Luc Ferry l'a écrit, ça m'a toujours touché. Le seul but dans la vie, c'est d'avoir un iPhone qui pèse 1 gramme de moins que l'année dernière. Ça, c'est le but de la vie. Mais finalement, personne ne sait, personne ne maîtrise. On ne sait pas où on va. Personne ne sait. Ou bien, on dit, l'histoire va quelque part, il y a un aboutissement, c'est Dieu qui mène tout cela pour amener des gens à lui et en vue du retour du Seigneur. Ce qui fait que dans ma vie, ce qui m'arrive n'est pas simplement le fruit du hasard, Dieu le sait et peut l'utiliser. Et la phrase que je me répète souvent, même si je suis lent à toujours le mettre en pratique, c'est de dire, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas ce qui m'arrive, mais ma façon de réagir devant ce qui m'arrive. Je pense que c'est biblique, mais bon, on met des années, peut-être on met une vie, pour vraiment vivre cela, mais c'est le but. Parce qu'on sait que le Seigneur est lui qui a le dernier mot. Donc, notre espérance, c'est le retour de Jésus. La troisième chose, comme on l'a dit, seul le Père connaît l'heure. Et on s'étonne que tout au long de l'histoire, il y a des personnes qui sont apparues un peu partout pour dire « Moi, je connais l'heure du retour du Seigneur. Moi, je connais l'heure de la fin du monde. » Ça, tous les siècles. Depuis 20 siècles, il y a des gens qui ont cru savoir à quel moment le Seigneur allait revenir. On a du mal à le comprendre parce que c'est tellement clair que Jésus a dit, seul le Père le sait. Je me souviens quand on était avec Marie en Uruguay, je ne sais plus en quelle année c'était, mais il y avait un homme qui était paru. Tous les bus à Montevideo, il y avait une grosse pub pour dire l'heure de la fin du monde. On est toujours là. Les témoins de Jéhovah ont trouvé mieux. Parce qu'en fait, ils avaient annoncé à plusieurs reprises la fin du monde. Et la dernière fois, je crois que c'était vers 1914. Et cette fois-ci, ils ont dit, oui, c'était la fin du monde, mais on ne l'a pas vu, en fait. Jésus est revenu, mais on ne l'a pas vu. C'est leur façon de s'en tirer. Soyons quand même un peu plus humbles que cela pour dire, non, on ne sait pas à quel moment ça va se passer. Donc, il faut être toujours prêt. Et la quatrième chose que l'on peut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de ce retour nous exhortent par rapport à notre vie en l'attendant. Plusieurs reprises, c'est pourquoi réveiller, prier, c'est pourquoi vivre dans la sainteté, c'est pourquoi, etc. Il y a un petit peu de débat pour savoir si c'est vraiment Martin Luther qui l'a dit, mais bon, on l'affirme assez souvent qu'on lui a posé la question, le grand réformateur, si tu savais que Jésus revenait demain, qu'est-ce que tu ferais? Il a dit, si on m'apprenait que demain c'était la fin du monde, je planterais un pommier. Bon, c'était sa façon de dire que on doit continuer à vivre devant Dieu, comme si on avait toujours fait, en quelque sorte. Donc, pas de panique, en quelque sorte, parce qu'on sait que c'est Jésus qui revient pour nous chercher. Et c'est là où je termine avec un verset qui se trouve dans la première épître de Jean, que nous allons chanter pour terminer. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est.